Bonjour, bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis Naomi Laflamme, votre animatrice, et je suis en compagnie, comme toujours, de Jeanne Desrosiers, la co-animatrice de l'émission.
Bonjour!
Donc, aujourd'hui, on sort un petit peu du cadre traditionnel de l'émission. Donc, comme vous savez, Dans la mer climatique se concentre spécifiquement sur les questions climatiques et donc par rapport au changement climatique. Mais aujourd'hui, on élargit le champ pour parler d'environnement, donc vraiment au sens plus large. Aujourd'hui, on aborde donc la question des limites planétaires, qui est un concept scientifique qui a été développé en 2009 par une équipe internationale de chercheurs. Donc, on va vous présenter tout d'abord le concept. Jeanne, c'est quoi le concept de limite planétaire? Qu'est-ce que ça représente?
Donc, les limites planétaires, ce sont les limites à ne pas dépasser si on veut que l'humanité puisse continuer là, à vivre dans un environnement sûr et si on veut éviter là, des modifications brutales et catastrophiques qui perturberaient de manière irréversible l'environnement planétaire et qui mettraient la survie des espèces vivantes en danger. Donc, chaque limite franchie augmente le risque de ces perturbations-là qui mettent l'humanité en danger. Elles sont compte de 9 limites, donc les changements climatiques, évidemment, l'intégrité de la biodiversité, les nouvelles entités chimiques, l'état de la couche d'ozone, la pollution atmosphérique, l'acidification des océans, les cycles biogéochimiques, l'eau douce et l'utilisation des sols.
OK. Donc, il y a 9 limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Mais comment on les évalue, ces limites-là? Chaque limite, en fait, comment on sait qu'une limite est dépassée ou l'est pas, ou en fait, est sur le point de l'être?
Bien, d'abord, le GIEC évalue régulièrement là, les différentes limites pour suivre l'évolution de ces questions-là en les représentant avec un diagramme particulier qu'on appelle le modèle de braise ardente, donc, où l'atteinte de la limite peut évoluer à travers le secteur du cercle qui est dédié à l'enjeu. Mmh. Donc, avec des variations de couleurs, là, du vert au rouge, le vert étant là, quand ça se passe bien, puis le rouge quand ça va très mal.
Là, on parle d'un schéma qui est très visuel, donc on va essayer de vous présenter ça sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez savoir de quoi qu'on parle, justement.
Ouais, c'est exactement. On le partagera sur les réseaux sociaux, mais en gros, là, c'est vraiment comme un cercle divisé en 9 pointes de tarte. Chaque pointe de tarte là, correspond à une des limites. Puis à l'intérieur, ben, la pointe de tarte comme se remplit plus on atteint la limite. Donc le but, c'est de pas remplir le cercle au complet, mmh. c'est de rester le plus près du centre possible. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre selon les experts, c'est que c'est une évaluation du degré de dépassement. Fait que c'est pas nécessairement des points de non-retour. Donc, c'est des situations là où il y aurait des changements irréversibles qui permettent pas de retour en arrière. Oui, donc, si on s'obstine à toujours pousser les limites, à la repousser au maximum, ben, à un moment donné, la situation va devenir irrécupérable, notamment avec le franchissement de ce qu'on appelle les points de bascule, qui sont des perturbations là, brusques et imprévisibles. Mais pour la majorité des secteurs, il est possible d'améliorer la situation puis de ramener le niveau d'atteinte à quelque chose d'acceptable, donc de revenir vers le centre pour ce qui se trouve dans le vert. On l'a vu notamment avec la question de la couche d'ozone qui avait été dépassée là, largement, mais avec laquelle, grâce au protocole de Montréal, on a réussi à retrouver un état convenable en matière là, de couverture au pôle.
Justement, genre en réglementant là, les CFC, si
exactement.
Je me souviens
bien. Puis c'est un accord international, donc comme quoi, ben parfois, ça peut fonctionner.
Les
accords internationaux. Dans ce cas-là, ça a vraiment fait une différence. Puis c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans le vert pour la limite de la couche d'ozone.
Okay.
Ce qui était considéré comme quasiment impensable, mais finalement, mm-hmm. on a réussi à le faire.
Donc, ça nous donne un peu espoir quand même de savoir que on peut quand même revenir en arrière, mais c'est juste que quand même, quand ces limites-là sont dépassées, mais il va avoir des conséquences quand même.
C'est ça,
donc,
exactement.
Il faut y penser. Mais c'est quoi le bilan de la situation actuellement par rapport aux limites? Est-ce qu'il y en a qui sont dépassées?
Ben, en ce moment, il y a 6 des 9 limites qui sont dépassées selon la dernière évaluation du GIEC. Donc effectivement, la situation est préoccupante pour l'eau potable, les nouvelles entités chimiques, l'usage du sol, mais surtout pour la biodiversité, les changements climatiques puis les cycles biogéochimiques.
Okay.
Cycle biogéochimique, c'est comme le cycle du phosphore, par exemple, ou du nitrate.
Okay.
Donc, on reste toutefois dans l'acceptable pour ben, la couche d'ozone, comme on l'a dit, mais aussi la pollution atmosphérique et l'acidification des océans.
OK. Et donc là, on vient de parler des limites qui sont dépassées, mais comment on sait que ces limites-là sont dépassées? Est-ce qu'on a des indicateurs concrets ou des exemples concrets par rapport au dépassement de ces limites-là?
Oui, ben on a comme des seuils, là, des notations qu'on, mm-hmm. qu'on vérifie. Donc, par exemple, on dit que le seuil du changement climatique est dépassé parce que la concentration atmosphérique de CO2 doit pas être dépassée et de 350 parties par million, donc ppm,
mm-hmm.
c'est une mesure là, de concentration, pas important de savoir exactement qu'est-ce que ça représente notre ppm, mais actuellement, on serait à 420 ppm. Okay,
donc, on l'a largement dépassé.
On est au-dessus du 350. Ensuite, pour la préservation de la biodiversité, ben, il faut rester en dessous du taux d'extinction qui est de 10 espèces sur 1 million d'années.
OK.
10 espèces sur 1 million par année.
Oh, par année.
Oui. Alors que, mais en ce moment, le taux d'extinction serait de 100 à 1000 espèces
okay.
sur 1 million qui auraient été exterminées, ce qui perturbe grandement l'équilibre de la biodiversité. Mm-hmm. Donc, on va trop rapidement, dans le fond.
Mm.
Donc, c'est souvent c'est ça, des mesures là, de soit de concentration ou sinon de rapidité. Donc, des phénomènes qui s'accélèrent là, au-delà d'un rythme qui serait normal s'il n'y avait pas là, l'influence de l'espèce humaine.
Mais c'est fou quand même de penser qu'il y a 100 à 1000 espèces vivantes qui disparaissent à chaque année. Juste le chiffre en tant que tel, on comprend pas. Ben, en fait, c'est juste que personnellement, moi, je savais pas l'impact que ça avait concrètement. Donc, le chiffre, vraiment, ça nous sonne une cloche, là, vraiment.
Ben, exactement. T'sais, c'est là qu'on remarque, ben, on comprend qu'il y a énormément d'espèces sur Terre, là.
Oui.
Plus que ce qu'on voit. C'est ça aussi qu'il faut croire. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, qu'on ne côtoie pas, évidemment, là, nous, dans notre environnement urbain, qui sont plus dans des zones reculées. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un inventaire qu'on est capable de suivre. Parce qu'en fait, là, les scientifiques disent aussi que on n'a pas été capable de répertorier toutes les espèces okay. vivantes.
Mm.
En partant, fait que peut-être qu'il y a des espèces qui disparaissent qu'on n'avait même pas comptabilisées, qu'on saura même pas, dans le fond, qu'elles avaient existé.
Donc, peut-être le taux d'extinction qu'on vient de nommer
pourrait
être encore plus gros.
Exactement.
Mais on le sait pas.
Exactement. Okay. Puis sinon, on a aussi l'occupation des sols, ben, on la mesure par la surface mondiale forestière, donc okay. la disparition du parterre forestier. Au niveau global, la limite est de 70% de couvert forestier, alors qu'actuellement, on est à 62% de la surface forestière qui est préservée. Donc, encore une fois, là, on est en dessous, dans le fond, du taux de préservation là, qui est souhaité.
OK, c'est ça. Fait qu'on a encore moins de surface forestière là, qui est préservée.
Exactement. Okay. Voilà.
Parfait. Ben merci. Ça nous donne vraiment une idée plus concrète là, de c'est quoi ces dépassements-là. Et donc, maintenant que justement cette petite introduction-là au concept de limite planétaire est fait, on comprend mieux en fait pourquoi justement le concept n'est pas juste lié au changement climatique. En fait, le changement climatique est une des limites, mais les limites planétaires, ça représente vraiment le tous les enjeux globaux environnementaux en général. Donc, aujourd'hui, justement, on se concentre sur l'environnement en général, mais pourquoi c'est pertinent d'en parler dans une émission qui se concentre vraiment juste sur les changements climatiques d'habitude? Tous nos épisodes sont vraiment sur le changement climatique. Donc, est-ce qu'il y a une utilité au fait qu'on se concentre sur les autres enjeux environnementaux et pas juste, en fait, les changements climatiques?
Ben c'est ça. En fait, les autres limites planétaires sont importantes à considérer pour mieux comprendre les changements climatiques. Parce que même si on parle souvent de la question climatique, des enjeux mm-hmm. climatiques comme une question indépendante, ça reste quand même un enjeu qui fait partie là, de la grande famille de l'environnement,
mm-hmm.
comme plusieurs autres questions. Puis ça a beaucoup d'interactions aussi avec les autres problématiques environnementales. Donc, c'est important de les prendre en compte parce que tous ces phénomènes-là interagissent entre eux puis s'influencent autant au niveau des causes, des conséquences, des solutions à apporter. Donc, même si souvent on voit ça en silo, mm-hmm. la réalité, c'est que dans la nature, dans le grand ensemble planétaire, ces phénomènes-là ne se provoquent pas en silo. Ils mm-hmm. interagissent entre eux.
Ouais, c'est ça. Donc, souvent, justement, on va avoir une couverture médiatique, là, je dirais, ouais. des changements climatiques vraiment de manière isolée. Donc, vraiment, qu'il n'y a pas de répercussions sur les autres. Par exemple, on fait vraiment une différence entre biodiversité et changement climatique. Mais en fait, c'est bien, justement, d'en parler de manière indépendante, mais il faut aussi prendre en compte que tous ces enjeux-là, ben, sont liés entre eux. Donc, en fait, vu que là, on a 9 limites planétaires, comment toutes les limites environnementales s'influencent entre elles?
Ben, c'est ça. Tout d'abord, ben, c'est vraiment un traitement, là, humain, là, puis culturel, social, là, de voir ça comme des problématiques mm-hmm. séparées. Dans la vie, là, c'est pas le cas. Donc, d'abord, on comprend que les conséquences des changements climatiques, donc les variations de température, les événements climatiques extrêmes, donc inondations, feux de forêt, tornades et autres,
ouais.
la hausse du niveau des mers, la fonte des glaces aussi, ben ça fragilise les écosystèmes. Puis ça va alors menacer la biodiversité, par exemple, parce que les habitats de plusieurs espèces vont être détruits. Mm-hmm. La quantité d'eau douce puis potable disponible va diminuer, notamment à cause de la contamination avec la salinisation des océans. Ouais. Les sols vont perdre en fertilité. Le couvert forestier va être réduit. Donc, c'est plein de conséquences, dans le fond. Mm-hmm. Les changements climatiques, leurs conséquences vont alors dégrader la situation pour les autres limites planétaires.
OK. Donc là, justement, on voit comment les changements climatiques affectent les autres limites. Donc, s'il y a une augmentation des changements climatiques, mais il va y avoir aussi une augmentation des risques là, pour la biosphère, pour la quantité d'eau potable qui est disponible, pour les océans, les sols, etc. Donc, là, on parle vraiment de comment les changements climatiques influencent les autres limites, mais est-ce que, dans le sens contraire, les autres limites peuvent aussi influencer et aggraver les changements climatiques?
Oui, c'est effectivement une relation là, bidirectionnelle, puisque les milieux naturels, les écosystèmes, c'est des puits de carbone importants. Qu'on pense aux forêts, aux zones humides côtières, aux tourbières, donc tout ce qu'on dit, le milieu humide, là, mm-hmm. entre autres, ben, en les fragilisant puis en détruisant leur intégrité, ben, il y a alors un relâchement massif d'émissions de GES, parce que dans le fond, le carbone est souvent emprisonné dans le sol ou dans les espèces végétales, puis ça fait augmenter le phénomène du réchauffement climatique. Donc, en ne préservant pas ces... Dans le fond, quand mm-hmm. ces environnements-là sont détruits, ben, eux, ils accroissent l'effet des changements climatiques, qui eux-mêmes okay. vont accroître ensuite la dégradation des okay. écosystèmes. C'est un cercle vicieux, dans le fond.
Oui, là. C'est ça. Donc, quand il y en a un qui augmente, ça va augmenter les autres, puis là, ça finit plus. Puis
une roue sans fin.
Une roue sans fin, exactement. Donc, justement, on comprend que la relation que tu viens de décrire là, touche particulièrement l'effet de l'atténuation, parce que c'est vraiment axé sur l'idée de réduire là, les émissions de GES pour pas que ça ait un impact négatif sur les autres limites. Mais est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut en fait être superposé au niveau de l'adaptation, donc l'adaptation au niveau au changement climatique? Est-ce qu'il y a des mesures adaptatives qui pourraient contribuer à régler plusieurs enjeux en même temps et donc à réduire certaines limites?
Oui, oui, c'est le cas, là, de manière unidirectionnelle toutefois. C'est-à-dire okay. que de préserver les milieux naturels, les écosystèmes, ça permet de mieux faire face aux conséquences des changements climatiques. Parce que c'est souvent des milieux qui vont accroître la résilience là, des régions qui sont victimes, notamment d'événements climatiques mm-hmm. extrêmes. Fait qu'en effet, les milieux forestiers, par exemple, vont préserver la stabilité des sols. Les zones humides côtières, les tourbières, ça permet de limiter l'ampleur des inondations parce que c'est des zones qui sont capables de se gorger d'eau, qui peuvent okay. accumuler. Aussi, il faut vraiment pas négliger les services qu'on dit là, écosystémiques que peuvent amener là, aux communautés humaines les milieux naturels. Donc, par exemple, ces milieux-là peuvent être des zones tampons pour limiter la propagation des espèces invasives. Mm-hmm. On le sait que le réchauffement là, de la Terre fait que y a des espèces qui vont migrer vers le nord, dans mm-hmm. le fond.
Comme les tiques.
Exactement, les tiques. On peut penser les sauterelles également okay. là, dans toutes ces invasions-là mm-hmm. au niveau agricole. Mais quand on a des zones de forêt, tout ça, des zones tampons, mais ça permet de limiter la propagation, de les garder dans des environnements qui sont plus invitants alors que les milieux humains. Mm-hmm. Sinon, ces milieux-là, ils fournissent des ressources naturelles qui sont essentielles au mode de vie de certains groupes. Puis aussi pour la biodiversité, les ressources génétiques, ça permet de garantir l'avenir de l'humanité, que ce soit au niveau de la production alimentaire, de pouvoir avoir mm-hmm. une variété, une diversité alimentaire qui va pouvoir s'adapter aux changements de température. Sinon, la préservation du patrimoine génétique puis d'espèces puis tout le potentiel pharmaceutique que ça implique. C'est okay. une question qui est parfois controversée, évidemment, là, la question du patrimoine génétique puis du potentiel ouais. pharmaceutique. Mais ça demeure que la nature, c'est non seulement un atout, une force, mais ça va être essentiel pour faire face aux défis de l'avenir parce que il y a des solutions à des problématiques qu'on vit peut-être déjà, mais ou qu'on va vivre, qu'on n'a pas encore cette réalité-là, qui vont se trouver déjà là, dans la nature. Donc, mm-hmm. des ressources qu'on n'exploite pas en ce moment, mais qu'il va falloir apprendre à valoriser.
Donc, en fait, là, avec ce que tu viens de mentionner aussi, c'est que c'est essentiel de protéger l'environnement là, vraiment au niveau global là, pour lutter contre les changements climatiques. Donc, on peut pas seulement choisir une cause, donc juste la réduction des GES. Il faut vraiment avoir une approche plus globale de la question pour vraiment être capable d'atténuer là, tous les changements. Donc aussi, ce qu'on vient de mentionner, par exemple, c'est vraiment par rapport à faire des questions de... en fait, faire des choix. Donc, c'est sûr que ça relève des questions de justice. Donc, est-ce que c'est juste de décider certains choix ou non? Par exemple, est-ce que il y a une question environnementale qui doit venir en premier? Donc, est-ce qu'on devrait en mettre une en priorité par rapport aux autres? Mais là, pourquoi ça relève des, ça soulève des questions de justice, c'est que il y a des enjeux environnementaux spécifiques qui vont plus toucher certaines communautés et que ça va toucher de manière proportionnée et différente aussi certaines communautés. Donc c'est vraiment là qu'on a des conséquences soit injustes pour certaines communautés. Donc si la solution là, c'est de voir l'enjeu de manière plus globale, donc d'englober là tous les autres enjeux environnementaux, comment on peut sortir de la perspective en silo, comme tu disais, vraiment isolée, indépendante des changements climatiques pour avoir une résolution plus globale?
Mais tout d'abord, faut pas faire dans la naïveté. Donc, il y a pas de véritable retour à zéro possible. Mmh. Donc, on peut pas arrêter l'ensemble des activités humaines en cause parce que parfois, ça, c'est quelque chose qui est comme un peu promu de manière ouais. idéaliste, là, de comme revenir à temps zéro, mais on peut pas tous vivre là en amiche là avec une relation sans technologie tout ça, et on peut pas revenir à ça.
Mm-hmm.
On peut pas ramener le monde à un état de type vierge sans empreinte humaine ouais. juste parce que c'est impossible naturellement là.
Puis les conséquences sont déjà là.
C'est ça, les conséquences sont déjà là. Il faut pas non plus tomber dans le piège inverse. Donc croire que la situation est sans issue parce que okay. on existe. Non, si les actions humaines ont pu modifier la nature de l'environnement pour le pire à plusieurs reprises, ben il y a nécessairement la possibilité d'inverser la tendance puis plutôt agir pour le mieux. Donc si l'espèce humaine peut faire des modifications sur son environnement, elle peut le faire dans les deux sens. C'est mm-hmm. ça, en fait. C'est de choisir l'orientation qu'on décide d'y donner. Parce que l'espèce humaine, ça demeure une espèce qui est quand même particulièrement créative là, et à même de s'adapter, on le sait. Mm-hmm. Donc, la possibilité de vivre à l'intérieur des limites planétaires en symbiose ou du moins là, en harmonie avec les écosystèmes, elle existe. Il faut entamer pour se faire une démarche de lutte intégrée aux problématiques environnementales. Donc, tout d'abord, mais un changement d'approche serait à apporter. Donc, d'avoir non seulement quelque chose de plus proactif, mais surtout, il faut, de manière peut-être plus incrémentale, mais il faut moins être dans le respect des normes, donc avoir des gabarits prédéterminés qu'on essaye d'atteindre puis qu'on respecte, c'est tout. Faut essayer de toujours en faire plus. Donc, de voir, être plus dans une optique de dépassement. Okay. Donc, plus d'être dans des objectifs plutôt que des règles.
Okay.
Donc, dans le but de toujours aller faire mieux, faut changer vraiment d'optique. Donc, plutôt que répondre à des critères, on cherche à les améliorer. Aussi, la mise en place de solutions aux neuf problématiques qu'on a mentionnées plus tôt, le faire de manière simultanée, ça va demander énormément de connaissances et de savoir, de pratiques interdisciplinaires à transposer sur le terrain. Donc, on peut pas mettre la responsabilité sur une seule discipline. Par exemple, dire « Ah, c'est aux sciences naturelles de gérer tout ça. » Ça va vraiment être un travail d'équipe. Puis, il va falloir accumuler du savoir. Ça, c'est nécessaire. Mais pas juste du savoir là, académique. Donc, à ce titre-là, il faut combiner deux sources de savoir. Le savoir scientifique, qu'on a quand même beaucoup aujourd'hui. C'est quand même un savoir qui est assez prolifique en soi. Mm-hmm. Mais aussi le savoir expérientiel. Donc, ce qui vient là, de l'expérience sur le terrain, donc du vécu des gens, qui est toujours le sous-valorisé là, en ce moment, alors que c'est souvent celui qui permet plus facilement l'application des mesures. Parce que le savoir scientifique, on est dans les laboratoires, on est en retrait. Donc oui, on élabore les connaissances, on élabore des mesures, mais en soi, c'est pas nous qui les mettons en place. Puis on peut pas nécessairement c'est pas là qu'on les teste dans la réalité.
Okay.
C'est vraiment le savoir expérimentiel qui, lui, amène là, ce type de connaissances-là.
Bien là, ici, on peut y voir justement une question de justice climatique parce que, d'une certaine manière, il y a des savoirs qui sont vraiment mis de l'avant et qui sont développés. Puis de l'autre côté, mais il y a certains savoirs, les savoirs expérientiels, qui sont ignorés, mis de côté, puis décrédibilisés là, par rapport aux autres. Donc, justement, comment ça constitue une question de justice climatique là, plus concrètement?
Ben c'est ça, c'est sûr que cette combinaison-là des deux types de savoirs, ça répond effectivement à des grandes préoccupations de justice parce qu'en prenant en compte le savoir expérientiel, ben on va venir à inclure des groupes, comme tu le disais, qui sont souvent marginalisés du discours politique ou académique. Mmh. Alors qu'ils possèdent souvent des points de vue, des informations, des perspectives uniques sur la situation qui doivent être pris en compte. On peut penser, par exemple, les travailleurs de certains secteurs. Donc, quand on pense, par exemple, l'industrie du bois.
Okay.
Ou le secteur agricole. Donc, c'est des gens qui produisent pas le savoir en soi académique, mettons, sur quelle molécule ou quelle espèce ou quel type de coupe il faut employer. Mais c'est vrai, c'est des gens qui voient les conséquences de ça et qui sont en mesure de les évaluer. Puis habituellement, en fait, eux, des fois, ils ont développé leurs propres techniques qui sont pas officielles. Tu sais, c'est pas, ça a pas été écrit dans un article scientifique. Mais ça fonctionne. Fait que parfois, il faut s'inspirer de ces méthodes-là qui sont plus
oui.
incrémentales, tu sais, qui okay. viennent du, ils viennent du milieu directement.
Ouais, okay.
Sinon, il y a les communautés locales aussi. Donc, des lieux qui vivent des conséquences, par exemple, des changements climatiques ou de la perte de la biodiversité, qui ont un vécu puis qui savent, par exemple, comment se préparer à ça ou qui savent ce qu'ils ont besoin. Par exemple, ceux qui sont les victimes des inondations, des feux de forêt également là, de cette année, mais eux, ils l'ont vécu. Ils mm-hmm. savent qu'est-ce qu'ils ont besoin puis qu'est-ce qui leur permettrait de mieux faire face à ça là, dans le futur. Puis finalement, ben, un groupe qui est vraiment là, pile dans ce créneau-là, c'est vraiment les peuples autochtones, qui eux, qui possèdent des savoirs ancestraux. Donc, c'est pas juste un savoir du vécu présent, c'est ça s'accumule sur des générations, puis qui ont fait leurs preuves là, quant à la manière de vivre en harmonie là, avec son environnement. C'est vraiment là, des peuples aussi qui ont souvent des connaissances sur les espèces animales, végétales, qui vivent davantage en symbiose, qui ont adapté leur mode de vie donc au climat dans lequel ils vivent, plutôt que l'inverse. Donc,
ouais.
Habituellement, là, les descendants des colons ont tendance à modifier leur environnement pour convenir à leurs besoins, au lieu de s'adapter, eux, en tant qu'espèce, au climat dans lequel ils se trouvent.
Donc, c'est vraiment des visions différentes.
C'est
là,
des
de
visions
vivre
vraiment...
avec son environnement.
C'est ça, c'est un spectre là, de compréhension complètement différent.
Mm-hmm.
Donc, pour être capable de faire face à tous ces défis-là, il faut vraiment avoir l'ensemble des spectres. Donc, tout le kaléidoscope là, des perspectives. On peut pas juste dire, on garde notre perspective habituelle européenne là, centrée un petit peu. Là.
Ouais.
On peut pas garder juste cette perspective-là. Il va falloir s'inspirer de toutes les perspectives qui existent. Puis de sortir parfois aussi du cadre occidental. Parce que souvent,
ouais.
les perspectives viennent beaucoup de l'Occident. Mais par exemple, dans tous les pays en développement, il y a beaucoup d'initiatives aussi qui se font plus au niveau des communautés qui peuvent être intéressantes là,
ouais.
à suivre.
Okay. Donc plus au niveau local, justement. Mais
oui.
justement, on en parle depuis tantôt, mais ça fait vraiment référence au concept d'injustice épistémique. Le fait que certaines personnes ou des groupes, comme les communautés autochtones, dont leur savoir, en fait, là, est ignoré, décrédibilisé. Puis aussi, c'est qu'ils n'ont pas non plus une place dans le savoir théorique ou académique. Donc, justement, on l'infériorise. Et s'attaquer justement, en valorisant le savoir expérientiel, ça permet de réduire les injustices épistémiques à ce niveau-là. Donc, justement, c'est de là que vient la question de justice climatique là, dans ce sujet.
Exactement.
Donc maintenant, pour ce qui est des stratégies, les solutions qui sont proposées concrètement là, pour atténuer et s'adapter, pas seulement au changement climatique, mais aussi aux enjeux environnementaux. Donc, c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place?
Bien, on peut penser là, de manière à un retour à des méthodes plus traditionnelles ou plus réfléchies de l'exploitation des ressources naturelles. Fait qu'on peut penser à la rotation des cultures, qui est quelque chose qui existe quand même depuis le Moyen-Âge.
Oui, c'est ça, des millénaires.
oui, des millénaires. Puis même avant ça, là, ça n'a pas été inventé au Moyen-Âge, ça existait avant. On s'inspirait. Encore une fois, on a volé quelque chose à quelqu'un. Mais sinon, tout ce qui est agroforesterie, donc inclure là, dans le fond... là. Des arbres notamment, puis des forêts
okay.
autour des terres agricoles.
Okay.
Et sinon, la sylviculture, donc des techniques de coupe puis de replantage là, pour mieux exploiter. Mais sinon, de manière plus massive et plus drastique, on peut se tourner vers ce qu'on appelle la revégétalisation ou l'afforestation. Ce qui signifie, soit pour la revégétalisation, c'est de végétaliser là mm-hmm. où la végétation a été précédemment retirée, ou pour la forestation, c'est de végétaliser où il n'y avait pas de végétation avant. Donc, c'est vraiment là des changements drastiques quand même au paysage, à l'environnement. Évidemment, là, ces initiatives-là peuvent être combinées à des choix d'espèces ou d'essences qui sont particulièrement adaptées au climat ou qui sont à haut rendement si c'est on est plus dans une perspective là, économique. C'est sûr que ça, évidemment, c'est des mesures là, qui vont devoir être engrangé par l'État, là. Donc, ouais. Je veux dire, on peut pas faire ça de notre côté, là, même si c'est super inspirant.
Mm-hmm.
Mais aussi, finalement, il faut miser sur une plus grande naturalisation du patrimoine bâti, donc une plus grande intégration de la nature au milieu urbain. Que ce soit par l'agriculture potagère ou maraîchère urbaine, la végétalisation des espaces vagues. Tu sais, on a beaucoup souvent, là, dans les villes, des coins comme des parkings un peu abandonnés,
ouais.
ou des espèces de terrains vagues,
ouais.
laissés en friche. On devrait essayer de grossir le rendement, donc en mettant des espèces justement qui vont améliorer la capture du carbone,
mm-hmm.
mettre des espèces indigènes notamment, tu sais, okay. des choses qui vont attirer la biodiversité, des choses mm-hmm. comme ça. Puis sinon, ben on peut aussi végétaliser les toits, les murs aussi.
Ouais.
Donc on parle souvent des toits verts, mais les murs verts, ça existe également. Puis sinon, ce qui est intéressant, c'est que c'est des manières non seulement de lutter contre les changements climatiques, mais c'est ça, comme je l'ai dit, c'est de lutter aussi contre les inégalités sociales qui sont là, engendrées, comme les îlots de chaleur, mais aussi de préserver, là, par exemple, la biodiversité urbaine puis d'améliorer la qualité de l'air.
OK. Donc, là, justement, on voit que c'est pas seulement des mesures pour atténuer les changements climatiques, mais aussi les autres limites, comme, par exemple, améliorer la biodiversité. Et ça a des impacts sur les inégalités sociales. Donc, on revient encore aux questions de justice climatique. Donc, merci beaucoup, Jeanne, pour, en fait, pour ces solutions-là. Donc, ça nous donne espoir, encore une fois. C'est toujours bien de finir sur une note positive. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode qui portait sur l'interaction entre les questions environnementales et les questions climatiques et qu'on a abordé là, par l'entremise du concept de limite planétaire. Donc, d'ici à notre prochain épisode, vous pouvez nous contacter comme toujours sur notre page Facebook ou à l'adresse info@commercialdanslamireclimatique.ca si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous proposer. Donc, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!